Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Hong Kong maintient le projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine. Projet de loi contesté par la rue hier. Près d'1 million de personnes se sont rassemblées. Nous irons sur place à Hong Kong. Une marche des fiertés dans les banlieues a eu lieu hier en France, à Saint-Denis. Première marche du genre pour montrer que les banlieues populaires ne sont pas homophobes. Mais le mot d'ordre n'a pas plu à tout le monde, vous le comprendrez. Et puis nous rejoindrons notre correspondant au Kazakhstan, où le protégé du président sortant a été élu à une large majorité. L'opposition se structure toutefois, vous l'entendrez. Le camp pro-démocratique à Hong Kong va-t-il transformer l'essai? Il a réuni hier près d'1 million de personnes contre un projet de loi. Le texte vise à autoriser les extraditions vers la Chine continentale. Les yeux se tournent maintenant vers la chef de l'exécutif Carrie Lam. Elle affirmait jusqu'à récemment que la plupart des Hongkongais soutenaient son projet de loi. Que peut-il se passer maintenant, Florence de Sangy?
Céder sous la pression de la rue, ce n'est jamais une bonne chose pour l'autorité d'un gouvernement et ce n'est certainement pas le genre de Pékin, même si, à Hong Kong, c'est quand même ce qui s'est passé en 2005 et encore en 2012 pour d'autres textes contestés. En 2014, en revanche, malgré 79 jours de manifestations continues, le gouvernement local n'avait rien cédé aux manifestants, signe aussi du durcissement chinois dont Hong Kong est l'un des premiers témoins. D'autant plus difficile de céder que Pékin a donné tout son appui à la chef de l'exécutif, Carrie Lam, et l'avait encouragée à faire adopter cette loi au plus vite. Mais on voit mal comment le gouvernement pourrait ignorer un message de rejet aussi fort et passer en force un texte qui semble susciter tellement d'inquiétude dans la population hongkongaise. C'est tout le paradoxe du système local, où les citoyens ont presque tous les droits et toutes les libertés civiles d'une démocratie, notamment le droit de manifester, la liberté d'expression, mais un gouvernement qui lui est imposé de manière quasi autoritaire.
Et à l'instant ce matin, le gouvernement pro-Pékin de Hong Kong annonce qu'il maintient son projet de loi très controversé. Carrie Lam, la chef du gouvernement, estime que c'est une loi importante qui va permettre de faire triompher la justice et qui assurera que Hong Kong respecte ses obligations internationales en matière de criminalité transfrontalière et transnationale. Voilà ce qu'elle affirme ce matin. Des rues désertes à Khartoum pour cause de désobéissance civile. Le mouvement a débuté hier au Soudan alors que 4 personnes sont déjà mortes. Selon un comité de médecins proches de la contestation populaire, le bilan de la répression militaire s'élève au total à au moins 118 morts et plus de 500 blessés. Les manifestants demandent toujours le transfert du pouvoir aux civils. L'actualité en France ce week-end, elle a été marquée par une marche des fiertés dans les banlieues organisée à Saint-Denis. Une marche pour lutter contre l'homophobie dans ces quartiers et pour rendre plus visibles les personnes LGBT. Plus d'un millier de personnes ont participé hier au rassemblement, même si dans le cortège, plusieurs positions s'opposaient, comme l'a constaté Manon Dédervet.
Les drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel flottent au-dessus de Saint-Denis. L'occasion pour Lies Alouane, 22 ans, de dénoncer les violences homophobes dont il a été victime chez lui à Gennevilliers, dans le département des Hauts-de-Seine. Pour lui, être homosexuel et vivre en banlieue est impossible.
En banlieue, dans les quartiers populaires notamment, il est très difficile d'assumer son homosexualité, son orientation sexuelle, son identité de genre, contrairement à Paris. À Paris, on peut se montrer, on peut tenir la main de son copain, mais en banlieue, on est vraiment en arrière dans le temps. Voilà, c'est tabou, c'est agression sur agression.
Mais ce discours est très contesté dans le cortège et cela crée même de vives tensions avec Majid Messaouden, conseiller municipal délégué à l'égalité des droits à Saint-Denis. Pour lui, il ne faut surtout pas stigmatiser les banlieues populaires.
C'est pas une zone de droit pour les LGBT, les quartiers populaires. On peut pas essentialiser comme ça des dizaines de millions de personnes. C'est des zones où ces questions-là ne sont pas assez visibles, mais c'est pas plus dur d'être homo dans un quartier populaire que dans une ville bourgeoise comme Versailles. Donc il faut qu'on n'aborde ces questions-là pour que les personnes LGBTI des quartiers populaires se rendent compte que oui, elles sont acceptées en tant que telles dans la ville, que oui, elles sont légitimes à y vivre et qu'il n'y a aucune raison qu'elles soient discriminées et qu'elles doivent aller à Paris pour aller trouver de l'aide ou refuge.
Le chantier est donc important, mais pour les organisateurs, cette première édition de la marche des fiertés des banlieues est une réussite. Ils espèrent désormais que cela permettra de donner plus de moyens aux associations qui luttent au quotidien contre les violences homophobes dans les quartiers populaires.
Manon Dédervet à Saint-Denis pour France Culture. Accentuée par la perspective des municipales, la fuite des élus se poursuit au parti Les Républicains à droite. Dans une tribune publiée hier, 72 élus locaux de droite et du centre expriment leur soutien à Emmanuel Macron. Renault menace Nissan de bloquer la réforme de la gouvernance, une réforme entachée par le scandale Carlos Ghosn. Le groupe français veut être mieux représenté dans les différents comités du conseil du constructeur japonais. Il en détient actuellement 43,4%. Et la réforme de la gouvernance, pour être adoptée, doit être validée par la majorité des deux tiers au sein du constructeur. Penchons-nous maintenant sur la conférence annuelle de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Elle débute aujourd'hui, lundi, à Genève. Et la réunion sera particulière, puisqu'il s'agit de fêter les 100 ans de l'organisation. 44 chefs d'État et de gouvernement sont attendus, du jamais vu. Il sera question notamment d'une possible nouvelle convention sur la violence au travail, sorte de réponse, selon certains, au mouvement MeToo. Anna Biondi est la directrice adjointe de la représentation des travailleurs à l'OIT. Elle note que si le sujet est ancien, ce sont les positions des employeurs qui ont évolué.
Ça part de plus loin, beaucoup plus loin, parce que justement, on passe des années avant d'arriver à discuter une norme. Ça part du mouvement syndical, en tout cas. C'était les travailleurs qui avaient proposé cette norme. Elle a pris beaucoup de temps. Et je me rappelle que les employeurs disaient non, on ne peut pas parler de stress. Ça, ce n'est pas prévu, on ne peut jamais parler. À la fin, on est arrivé. Maintenant, on a une norme qui va parler de la violence physique et psychologique au travail. Essayons de mettre en place, naturellement, des situations de prévention. Là aussi, ce n'est pas seulement les travailleurs, mais aussi les employeurs, les gouvernements qui maintenant sont en train de dire, voilà, on a besoin aussi de ces questions. Mais alors, quelqu'un va me dire, mais pourquoi la France devrait ratifier la norme sur la violence quand il y a la législation qui est déjà beaucoup plus large que cette nouvelle norme. Alors justement, l'OIT dit qu'il faut ratifier aussi si vous avez la législation meilleure pour deux raisons. En premier lieu, parce que ça ne te coûte rien, parce que tu as déjà la législation meilleure, mais la législation peut changer. Les travailleurs demanderont toujours « ratifie la norme ». Et alors ça, c'est très important.
Anna Biondi de l'OIT au micro de Marie Viennot. Marie, que nous retrouvons pour le reportage de la rédaction de ce lundi à 7h24, tout à l'heure. Reportage consacré à l'Organisation internationale du travail et notamment à la liberté syndicale. Boris Johnson menace de ne pas payer la facture du Brexit. L'ancien ministre des Affaires étrangères et candidat à la succession de Theresa May l'a dit hier. S'il est élu à la tête du Parti conservateur britannique, puis comme Premier ministre, il ne souhaite pas payer, dit-il, tant que l'Union européenne ne proposera pas à Londres de meilleures conditions de divorce. C'est par ailleurs aujourd'hui que débute la campagne pour la succession de la première ministre démissionnaire en Grande-Bretagne. 11 candidats, dont Boris Johnson, se sont déclarés pour le moment. Au Kazakhstan, une présidentielle anticipée se déroulait hier pour désigner un successeur à Nursultan Nazarbayev, au pouvoir depuis 28 ans maintenant. L'élection a été dénoncée par les opposants comme étant factice, car Nazarbayev reste aux affaires, notamment à la tête du Conseil national de sécurité. Hier, des centaines de manifestants d'opposition ont été arrêtés après le scrutin. Scrutin qui a désigné le poulain de l'ancien président, Tokayev. Il avait fait en sorte, Claude Brouillot, d'écarter son seul opposant.
Si l'opposition à Kassym Jomart Tokayev n'existe sans doute pas dans les urnes, elle est bien réelle en revanche dans la rue. Au-delà de l'élection programmée du protégé de Nursultan Nazarbayev, l'autre enseignement de ce scrutin présidentiel, c'est qu'il se développe à Almaty et à Nursultan, le nouveau nom de la capitale du Kazakhstan, un véritable mouvement bien décidé à se faire entendre dans les mois à venir. Sa revendication est simple, la tenue d'une élection qui soit véritablement représentative de la société kazakh. L'éviction du seul opposant à Tokayev et Nazarbayev, un certain Mokhtar Ablyazov, ancien banquier en exil, a généré ses appels à manifester et à voter nul aujourd'hui afin de ternir le succès annoncé du premier nommé et la stratégie de contrôle du pouvoir organisée par le second. Il n'en demeure pas moins que bon nombre d'électeurs ont préféré confier le destin d'un Kazakhstan toujours coincé entre la Russie et la Chine à un visage connu, Kassym Jomart Tokayev, ancien ministre des Affaires étrangères notamment, et qui se fait fort de poursuivre la politique des grands équilibres présentée par Nazarbayev à l'époque de façon autoritaire comme la seule capable de garantir l'avenir du pays.
Claude Brouillot pour France Culture. Le temps de ce lundi en France, toujours instable avec le passage d'averses, notamment sur le nord et sur l'est du pays ce matin. Averses qui vont devenir orageuses dans l'après-midi sur la Normandie. Comptez dans la matinée 13 degrés à Rennes, 16 à Paris et Bordeaux, 17 degrés à Lille, 18 à Strasbourg et Lyon et 26 degrés ce matin à Marseille sous le soleil.